Pensez.
On peut se poser la question, comment vont les hommes aujourd'hui, surtout avec le mouvement MeToo, ce mouvement MeToo qui a fait beaucoup de bruit, mais quels échos ont-ils trouvé dans les oreilles, dans les cerveaux, dans les cœurs des mâles, je dis avec un accent circonflexe, en 2018, qu'ont-ils entendu de ce que cette voix forte et surtout féminine a révélé de l'histoire plurimillénaire des relations hommes-femmes. Donc pour aborder ces questions, Lorganac, vous avez réuni le sociologue français Raphaël Liogier, qui est en duplex depuis Paris. Alors tout d'abord, bonjour Raphaël Liogier.
Bonjour.
Et puis nous avons aussi dans notre studio à Lausanne, nous avons le plaisir de recevoir le psychiatre et psychothérapeute lausannois Alexis Burger. Bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi eux, vous allez nous le dire tout de suite, Lorganac.
Eh bien parce que ce sont deux hommes, comme vous l'aurez remarqué, qui ne se contentent pas de vivre la masculinité.
Sans se poser de questions.
Voilà, les moyens du bord. Ils s'adaptent, ils essaient d'interroger cette masculinité, la leur et celle des hommes en général. Alors le premier, Raphaël Liogier, publie « Descente au cœur du mal », les liens qui libèrent, l'édition parue donc tout récemment, qui est une sorte de réaction, de livre écrit en réaction après l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo, où il s'appuie sur l'histoire, la littérature, les mythes pour mettre en lumière cette culture virile construite, entretenue dans un rapport de stricte domination des femmes durant des millénaires et dans toutes les civilisations.
Oui.
Et puis le second, donc Alexis Burger a placé la tentative de compréhension du masculin au cœur de sa vie personnelle d'abord, dans sa vie de psychiatre ensuite, puisque Alexis Burger, vous recevez, vous écoutez les hommes et vous animez régulièrement des groupes de parole d'hommes, entre autres, au cœur du désert. Une expérience dont vous témoignez dans ce livre, Le défi masculin, 20 ans de dialogue avec des hommes, paru aux éditions Favre l'an dernier, soit juste avant l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo. Donc ce sera intéressant d'avoir aussi votre regard, votre expertise sur ces événements et surtout leurs effets chez les hommes que vous rencontrez. Mais d'abord, Juliane, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur les termes peut-être ? Raphaël Liogier, vous titrez sur le mâle et vous, Alexis Burger, vous titrez sur le masculin. Au milieu, il y a l'homme. De quoi est-ce qu'on parle dans chacun de ces cas ? Peut-être d'abord, Raphaël Liogier, pourquoi ce titre « Descente au cœur du mâle » avec cette notion mâle qui est quand même bien particulière ? Ça n'est pas qu'un jeu de mots, j'imagine. Que pour le plaisir, disons, du jeu de mots.
Non, ce n'est pas qu'un jeu de mots. C'était pour montrer qu'il ne s'agissait pas d'un livre. C'est mon livre le plus personnel. C'est-à-dire, c'est pas un livre seulement d'anthropologie. Ce n'est pas un livre seulement sur l'actualité. C'est un livre où j'essayais de comprendre en miroir de l'actualité et de mes propres recherches en anthropologie, ma propre sexualité, sans essayer de me cacher, parce que j'ai le sentiment depuis 8-9 mois où on parle beaucoup de MeToo, on en parle, mais on en parle comme en évacuant le problème essentiel, c'est-à-dire le regard des hommes sur le corps des femmes, pas sur les femmes comme ça in abstracto, le regard spécifique des hommes sur le corps des femmes, qui est aussi mon regard, et dans ce sens, je me sens responsable, même si je ne me sens pas coupable de harcèlement au sens spécifique du terme, et encore moins de viol. Mais cette responsabilité, il me semble que les hommes, encore aujourd'hui, essayent de la détourner de différentes manières. Par exemple, en disant que ça va trop loin, ou des choses qui sont hors sujet au fond. Voilà.
Qu'est-ce que c'est que ce regard des hommes sur le corps des femmes ? Qu'est-ce que vous entendez par là, précisément ?
Mais ce que j'entends par regard des hommes sur le corps des femmes, c'est que les hommes, depuis le début du néolithique, alors c'est difficile de situer exactement le néolithique, parce que c'est très lointain, donc il y a beaucoup de conflits, alors on va dire, on situe entre 10 000 et 35 000 ans, suivant les interprétations, les hommes ont imposé un regard sur le corps des femmes qui fait des femmes un objet de jouissance, mais qui lui-même n'est pas supposé jouir. C'est pour ça que dans certaines sociétés, les femmes sont excisées physiquement, pour qu'elles ne jouissent pas, c'est quand même étonnant, ça, mm-hmm. pour qu'elles oublient, pour qu'elles mm-hmm. nient leur propre jouissance. Mais en même temps, ce que j'ai voulu montrer, c'est que même dans les sociétés qui ne pratiquent pas l'excision au sens strictement physique, c'est-à-dire nos sociétés, toutes les sociétés, les hommes ont pratiqué ce que j'appelle une excision mentale ou une excision culturelle. Et c'est-à-dire, c'est un peu, on pourrait appeler ça la doctrine du corset. On retient, on enserre les femmes et on leur fait croire que c'est le charme, que c'est le féminin, que la pudeur, le retrait, le corset, qu'il soit mental ou qu'il soit même physique, ça devient les valeurs féminines tellement intériorisées par les femmes qu'elles finissent elles-mêmes dans la relation sexuelle et puis ensuite dans leur rapport au monde à se comporter à l'intérieur même de ce regard. Mmh. Donc c'est assez étonnant parce que la jouissance, c'est pas seulement, enfin, la jouissance, c'est un mot extrêmement important parce que la première des jouissances, c'est la jouissance de son corps. Mais parce qu'on arrive à jouir de son corps au sens positif du terme, on peut aussi jouir de la propriété. Quand on parle de jouir de la propriété au sens du droit civil, jouir des droits politiques. Et donc les hommes, ils ont d'emblée excisé culturellement les femmes, déjà sur la base, qui est le corps, pour bloquer toute jouissance ensuite, qui soit aussi une jouissance civile, droits politiques, sociaux, etc. Et donc, c'est pas parce que les femmes, ont obtenu déjà difficilement une certaine égalité des droits, de la jouissance de leurs droits, elles ont mis des siècles, et puis ensuite l'application de ces droits, une certaine égalité économique, et on n'y est pas encore, bah, il manquait le milieu, le centre, ce qui est le plus profond, c'est la jouissance de leur propre corps. Et c'est ce que les hommes, dans leur regard, leur refusent encore, et c'est ça le message le plus central de MeToo. Et c'est pas ce dont on parle en réalité depuis 8-9 mois, comme si on faisait semblant que ça n'avait, comme si on faisait semblant de ça avait un autre rapport, que c'était un rapport à autre chose.
Et selon voilà. vous, selon vous, Raphaël Liogier, l'affaire Weinstein serait le point, le moment où, le moment révélateur finalement de toute cette très longue histoire de la domination masculine.
Oui, je crois qu'il y a quelque chose de très fondamental dans l'affaire Weinstein, qui dépasse très largement l'actualité et la personne de Weinstein lui-même, quelque chose de très très profond dont on se rend compte si on prend la peine d'aller lire le fil Twitter, ce que ne font pas la plupart des gens qui en parlent, excusez-moi, hein, mais y compris dans les médias, massivement. C'est ça qui est quand même étonnant, et moi-même je n'y étais pas allé, et j'ai une amie qui y était allée, et j'ai eu une discussion presque, elle était en colère contre moi parce que j'en parlais sans savoir. J'ai prétendu que j'étais plus ou moins allé, j'ai fait comme tout le monde, mais c'était faux. Et puis, quand j'y suis allé, je me suis rendu compte que c'était vraiment tout autre chose, qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond. C'est-à-dire que l'affaire Weinstein, c'est pas la chasse à l'homme, c'est même pas l'idée d'aller essayer de limiter la liberté sexuelle. Non, c'est au contraire une extension de la liberté sexuelle, mais réciproque. C'est l'idée que les femmes veulent pouvoir dire non légitimement parce qu'elles jouissent de leur corps. Mais la jouissance est aussi positive. Elles veulent pouvoir dire oui, et dans les conditions où les hommes peuvent le faire, en voulant jouir de leur corps peut-être même immédiatement, dans les conditions qu'on reconnaît habituellement aux hommes, sans que le regard des hommes devienne un regard dégradant sur elles, sur leur corps. Et c'est ça le problème, la question de Weinstein. Parce que Weinstein, quand il ne couche pas n'importe comment, avec n'importe quelle femme, contrairement à l'image qu'on a de DSK, par exemple, qui n'a pas entraîné le même...
Oui, il n'y a pas eu le même phénomène après l'affaire DSK. C'était plus un phénomène marginal, finalement, celui d'un homme.
Tout à
un
fait,
peu...
parce que... Oui. Exactement. C'est-à-dire une sorte de l'image du mâle salace, voire d'une sorte de Casanova qui accumule les aventures, qui couchent avec tout le monde, que ce soit avec des prostituées, des femmes rémunérées pour ça ou non, n'importe qui. Bon, c'est ça l'image qu'on avait dans le grand public, même si que ce soit plus ou moins vrai, c'est pas le sujet, quoi. Avec Weinstein, c'est pas pareil. Weinstein, il accueille il donne rendez-vous à des femmes, en général des stars, des starlettes au moins, donc qui ont déjà un certain pouvoir. Il leur donne rendez-vous dans sa suite pour qu'elles sachent pourquoi elles sont là. C'est une chambre, elles savent qu'elles viennent dans sa chambre. Ils les accueillent parfois avec un peignoir, une robe de chambre à moitié ouverte, échancrée, vraiment pour qu'elles comprennent et qu'elles restent quand même là, en le sachant. Ils leur demandent de faire des massages, éventuellement de se glisser sous les draps, etc. Ça veut dire que ils ne jouissent pas même directement du corps des femmes, comme ça, au sens brut du terme. Non, il jouit, il essaye de jouir de son propre pouvoir à travers le corps des femmes. C'est-à-dire, il jouit de la femme en tant qu'elle est à genoux. C'est une sorte de... C'est ça le cœur même, d'ailleurs, de la pornographie, cette espèce de... Il jouit lui-même. Il se masturbe dans le corps des femmes pour jouir de sa puissance. C'est de l'onanisme égotique. Mmh. Et ça... Qu'est-ce que c'est? C'est Don Juan, c'est la cause du mal, M-A, accent circonflexe LE, et du mal, justement, aussi, au sens de, voilà. Et donc là, je crois que c'est très important de le dire, c'est ça le problème.
Alexis Burger, vous entendez Raphaël Leger, donc nous exposer son regard sur cette affaire-là, qui disait, Raphaël Leger disait à l'instant qu'il avait le sentiment qu'on avait très peu, finalement, parlé du cœur du problème soulevé par l'affaire Weinstein. Quel est votre point de vue, votre expérience, surtout, sur cette question-là, vous qui rencontrez quotidiennement des hommes, qui les écoutez parler, et notamment les emmener même dans le désert pour parler entre eux?
Je suis clinicien, donc je vois les choses par l'intermédiaire de ce que me disent les gens et les groupes et les patients. Et il y a une chose qui me semble très claire dans MeToo, c'est que c'est un peu l'aboutissement d'un mouvement qui date des années 80 où on révèle ce qui était caché. Mm-hmm. C'est-à-dire tout à coup, on se rend compte de la dimension du problème, on se rend compte du nombre d'abus sexuels, on se rend compte du fait que c'est banal, que c'est dans tous les milieux, que c'est pas des satyres au coin d'un bois, mais que ça peut être le parrain, ça peut être l'oncle, ça peut être... C'est proche de nous, on se rend compte de l'importance, on se rend compte que c'est dans les écoles, on se rend compte que c'est dans les églises. Et tout à coup, il y a un aspect sombre de la masculinité qui devient évident. C'est pas forcément qu'il n'existait pas avant, mais il est évident. Et puis pour la majorité des hommes, ça a un impact, c'est qu'on peut pas faire comme si on savait pas. Mmh. On sait. Et tous les hommes savent. Et tous les hommes sont confrontés à ce type de comportement et à cette question... Est-ce que c'est dégueulasse d'être un homme? Est-ce que c'est franchement de ce niveau-là? Alors pour moi, Weinstein, Ramadan, tout ça, c'est un peu le sommet de l'iceberg, parce que c'est des comportements criminels, c'est des choses qui sont d'ailleurs poursuivies pénalement. Mmh. Et puis il y a toute une série de comportements qui sont aussi révélés par MeToo, qui sont pas forcément criminels, mais qui révèlent une confusion qu'il y a dans les rapports entre les genres. C'était l'affaire Ansari, par exemple, qui avait fait beaucoup de bruit aussi, ou d'autres, où c'est des gens qui, dans les groupes, disent, ben voilà, il m'est arrivé ça avec une femme, dans le fond, après coup, je sais pas si j'étais abuseur ou pas, est-ce que je suis allé trop loin ou pas, et c'est les gens qui disent, voilà, moi, j'ai des enfants, mais je me permets pas de prendre le bain avec eux, parce que j'ai pas envie qu'on me traite de pédophile. Et on leur dit, mais vous avez des envies sexuelles quand vous êtes dans la baignoire avec vos enfants? Non, pas du tout. Mais alors pourquoi vous avez peur d'être pris pour un pédophile? Ben vous voyez, avec tout ce qu'on dit maintenant, j'ai pas envie qu'on m'associe à ça. Mm-hmm. Ou ces hommes qui disent, ben le soir dans la rue, s'il y a une femme puis que je vais plus vite qu'elle, ça m'embarrasse de la dépasser, j'ai pas envie qu'elle croie que je la suis, alors je change de trottoir, je la dépasse, puis après je reviens. C'est ces petites hontes qui m'intéressent. C'est des hommes qui sont pas forcément responsables de comportements criminels, mais qui se sentent impliqués dans un flou de la relation, mm-hmm. qui peut-être ont été trop loin avec une femme, ou pas assez loin aussi, et qui finalement révèlent à travers cette gêne une méconnaissance, oui. En fait.
Et surtout, à quel point la frontière est ténue entre responsabilité et culpabilité.
Exactement. Mm-hmm. Et vous... c'est très difficile pour les hommes de reconnaître ça, parce qu'un des conditionnements masculins, c'est de se taire. Alors les hommes ressentent, bien évidemment, avec autant de sensibilité que les femmes, mais ont beaucoup plus de peine à exprimer leurs doutes et sont particulièrement embarrassés à dire à une femme qu'ils sont en train de séduire qu'ils savent pas très bien comment on fait pour être respectueux dans les relations sexuelles, par exemple. Ça casse l'ambiance, donc ils vont se taire, ils vont jouer un rôle. Et le rôle chez les hommes, c'est quelque chose de très très important, parce que tout à l'heure vous demandiez c'est quoi finalement cette histoire homme-femme. S'il y a une chose que les hommes savent pas, c'est définir leur masculinité. Et la masculinité est généralement définie par la négative. En tout cas, les hommes comme ça, qui ont pas forcément étudié la question, c'est quoi être un homme? Bah c'est pas être un gamin, quoi. C'est pas être un gamin, c'est pas être une femme. Pour certains hommes, c'est pas être un homosexuel. C'est-à-dire qu'ils se définissent par la négative, mais on leur dit, ouais, d'accord, ça, c'est ce que tu veux pas être. Puis c'est quoi que tu es comme homme? Et là, c'est le grand vide. Alors, d'un côté, c'est intéressant parce qu'il y a un grand vide, on peut se poser des questions, puis on peut élaborer. Alors, il y a un côté qui révèle un manque, mais il y a aussi une occasion fantastique. C'est pour ça que MeToo, c'est à la fois une occasion fantastique, parce que voilà, on a un espace de parole qui se libère, et c'est à la fois le révélateur d'un fiasco chez les hommes. Ce que dans mon livre, j'ai appelé le fiasco masculin, qui est en fait la notion selon laquelle le sexe force, pas tellement le sexe masculin, parce que tous les paramètres sur lesquels on peut comparer les hommes et les femmes sont en faveur des femmes. La longévité, c'est en faveur des femmes. Le nombre de délinquants, c'est en faveur des femmes. La proportion des violences, c'est très clairement, les hommes sont clairement plus violents que les femmes. Le nombre de suicides, très clairement, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Les addictions, beaucoup plus d'hommes que femmes. Si on regarde les choses d'un point de vue un peu sociologique, comme ça, ou clinique, on se rend compte qu'il y a un fiasco du côté des hommes. Et c'est ça qui est révélé parmi tout.
J'ai l'impression qu'Alexis Burger, vous recevez des hommes qui se sentent maintenant contraints, plus du tout libres de pouvoir séduire une femme de manière libre, enfin qui sont vraiment empruntés.
Alors ça, c'est très clair.
Encore plus maintenant.
La gêne est beaucoup plus... Ce qu'il y a de positif là-dedans, c'est que cette gêne s'exprime maintenant.
Oui.
Des hommes osent dire, ben en fait, je sais pas très bien comment me comporter là. Mais il y a de plus en plus d'hommes qui ont cet embarras dans les relations avec les femmes, et c'est justement pas des abuseurs.
Oui.
Les abuseurs, généralement, ont pas tellement de culpabilité.
Non,
ils théorisent la chose en disant c'est l'enfant qui a voulu ou Dieu sait quoi. Mais ces hommes qui ont de l'embarras, c'est généralement pas des abuseurs. C'est des hommes qui sont ouverts à la discussion. Et c'est des hommes qui sont, dans ma vision, ça c'est subjectif, en manque d'espace de discussion.
Mmh. Raphaël Liogier, vous vouliez réagir à ce que nous a exposé ici Alexis Burger?
Oui, moi je suis d'accord sur l'essentiel de ce qui a été dit. Ce qui est important pour moi, c'est pas l'aspect criminel qui est ce qu'il est et qui est effectivement la partie émergée de l'iceberg. C'est l'iceberg lui-même. Et par exemple, lorsqu'on a parlé de cette histoire de zone grise. Du consentement, c'est ça qui m'intéresse plus, parce que la zone grise du consentement, ça révèle une sorte de comportement quotidien dans les relations hommes-femmes. Et c'est ce qui apparaît le plus d'ailleurs dans MeToo, c'est-à-dire MeToo, c'est un espace, moi j'ai l'habitude de dire que c'est un espace de réalisation, c'est-à-dire où un certain nombre de femmes, là maintenant des millions, ont rendu réel, en partageant leur expérience, c'est ça la réalisation, des situations dont elles n'avaient pas réalisé la teneur, elles n'avaient pas réalisé qu'elles avaient été poussées, peut-être violées, dans une certaine mesure, sans exactement comprendre ce qui se passait, parce qu'on les a poussées à la sortie une boîte de nuit, chez des amis, en lui disant « tu m'allumes, donc pourquoi est-ce que tu ne m'embrasses pas, tu m'embrasses, pourquoi est-ce que on peut pas coucher ensemble, on couche ensemble, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas te pénétrer, etc. » Et donc ça, c'est ça qui progressivement apparaît. Et ça me semble vraiment extrêmement intéressant d'essayer de comprendre ce que sont ces phénomènes, parce qu'ils sont révélateurs vraiment des relations femmes. Mais il y a une chose avec laquelle je suis pas tout à fait d'accord, ou peut-être qu'on a mal, on n'interprète pas exactement de la même manière, c'est le fait que la masculinité se définirait en négatif. Elle se définit en négatif peut-être aujourd'hui, parce qu'il y a une sorte de réaction des hommes, justement, parce que oui, c'est un fiasco. Hein, le comportement masculin et cette masculinité telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Néanmoins, historiquement, la masculinité, elle se définit en positif, c'est-à-dire c'est la force, c'est l'intelligence, c'est le droit de parler en public, c'est le droit de couper une femme qui est en train de parler, alors que la féminité, c'est la pudeur, c'est-à-dire le retrait qui est d'une valeur féminine, c'est, je le disais, c'est cette espèce de corset moral, physique, même physiologique, c'est toutes ces valeurs culturelles qui sont des valeurs presque de sacrifice, donc négatives, sacrifice des femmes au profit des hommes. Lorsqu'on parle du pouvoir des femmes dans l'histoire, on dit tout le temps c'est parce qu'elle est dans l'ombre, derrière chaque homme il y a une femme, eh bien aujourd'hui elles veulent plus être derrière, c'est ça que souligne, même si on leur dit que c'est une sorte de pouvoir mystérieux, etc. En revanche, et là, c'est, ouais, là je suis tout à fait d'accord, c'est que cette obsession multimillénaire des hommes à exclure les femmes en faisant une sorte d'être négatif qui est là pour les satisfaire, qui est là en retrait, cette obsession, elle révèle que ce sont les hommes qui se sentent qui ont besoin d'exclure les femmes parce qu'ils sont angoissés face à cette puissance qui est à la fois la puissance reproductive et peut-être cette capacité qu'ont les femmes à jouir à l'infini, c'est ce que comme si elles pouvaient jouir du monde mieux que les hommes, comme
oui,
si elles étaient mieux préparées.
Par compensation, par rapport à la puissance, disons naturelle des femmes, que les hommes les auraient soumises. C'était d'ailleurs une théorie avancée par l'anthropologue Françoise Héritier.
Exactement.
Il y a beaucoup de théories visent à justifier ou à expliquer ça. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment la théorie qui soit suffisamment valable pour unifier toutes les opinions là autour. Et ce qu'il y a d'intéressant actuellement, c'est justement qu'on a un espace de redéfinition où on peut peut-être s'interroger, en prenant un pas de recul. Je trouve que c'est une démarche qui vaut la peine d'être tentée.
Juste une petite chose c'est pas à mon avis une question de théorie unifiée, c'est vraiment justement une question d'un seul coup, comme vous le disiez, que des choses à travers MeToo sont rendues visibles, et ce qui est rendu visible, c'est aussi ces relations sous-jacentes qui sont imposées aux femmes sans que ce soit extériorisé. Là, d'un seul coup, c'est vraiment extériorisé, et c'est ça qui est intéressant dans MeToo. Quand je dis c'est un espace de réalisation, c'est un espace qui va montrer, et le fait que cela montre, que ça rende visible des comportements qui étaient juste là, jusque-là sous-jacents, eh bien, je trouve que quand même depuis 6 mois, 8 mois, 9 mois, on parle d'autre chose. Par exemple, un exemple, on nous dit MeToo, c'est la dénonciation, c'est la chasse à l'homme, je le disais tout à l'heure, c'est un peu ça, ça va trop loin, etc. Mais c'est faux. Ça va pas trop loin. Parce que ce qui va trop loin, peut-être, c'est ce qui se passe tout autour dans la société. On dit on va changer la fin d'une pièce de théâtre parce qu'elle serait trop machiste. On va faire. Il n'y a pas une seule femme dans l'hashtag MeToo qui demande cela. On dit on va plus pouvoir. En France, on nous explique qu'on va plus pouvoir flirter tranquillement, etc. Il n'y a pas une seule femme qui demande ça. Pas du tout. Elle demande autre chose. Elle demande la réciprocité. Donc elle demande que les hommes aussi réalisent ce qu'ils font, comment ils le font. Et là, il y a une façon de botter en touche quand même. Il y a une façon de dire, on est dans... Alors, la plupart des hommes, beaucoup d'hommes, sont sincères. Mais même s'ils sont sincères dans la façon de dire, on ne sait plus comment s'y prendre, etc., ce qui est vrai, je peux comprendre ça. En réalité, ce n'est pas ce qui est demandé par le cœur du mouvement MeToo, qui est un mouvement extrêmement responsable, extrêmement modéré, qui n'est pas extrême, j'y tiens, qui n'est pas extrême, mais qui est radical. Radical, ça veut dire prendre les choses à la racine. Donc, prenons les choses à la racine, comme quand on arrache un cheveu, on arrache, ça fait mal. Néanmoins, ce n'est pas du tout extrême. C'est pas du féminisme radical, MeToo. C'est des choses, c'est assez simple au fond. C'est assez simple et la plupart des hommes comprennent ce que veulent dire ces femmes. Et la plupart des femmes, évidemment, elles se reconnaissent lorsqu'elles vont lire ce qui se passe sur cet hashtag. Ça, qui est très important.
Alexis Burgère.
Oui. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que pour moi, effectivement, ce MeToo révèle le fiasco masculin. C'est important que les hommes osent parler du fiasco masculin parce que c'est une réalité. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense, c'est un avis subjectif, que la honte n'est pas répartie sur ceux qui font les pires choses. La honte, elle est perçue par ceux qui veulent pas être associés à ces comportements-là. Ceci dit, globalement, en tout cas, pour la population que je connais, qui est quand même la classe moyenne d'un pays plutôt favorisé, il y a une évolution masculine qui est positive, très très clairement. Et on voit dans les jeunes générations une beaucoup plus grande liberté chez les hommes, par exemple, à s'occuper des enfants, et beaucoup plus de compétences à s'occuper des enfants que dans ma génération, par exemple. Ou dans ma génération, un père qui portait l'enfant sur la poitrine ou qui poussait la poussette attirait une foule de regards assez perplexes, parce qu'on se disait, tiens, c'est quoi ça, c'est...
Mais dans leur rapport aux femmes, est-ce que vous voyez là une évolution? Est-ce que dans leur rapport de domination ou pas?
Ah, domination, ça c'est une autre question. Ça je sais pas, parce que la domination, ça c'est vraiment dans la chambre à coucher qu'on va la voir. Ouvertement, personne n'est dominateur.
Oui, c'est vrai.
C'est quelque chose de très intime. Et dans la chambre à coucher, moi ce que je vois plutôt, c'est la peur d'être dominateur. Et ça, c'est un phénomène qui, à mon avis, est lié à la révélation de toutes ces informations importantes. Mmh. C'est qu'on veut pas être, là aussi, on veut pas être associé. Et ça va donner quoi? Ça va donner des hommes qui savent pas trop quoi faire dans les relations sexuelles et qui peuvent avoir non pas envie de dominer, de pénétrer sans écouter l'autre, mais qui ont envie de savoir comment faire pour écouter l'autre. Mmh. Et donc,
qui se retrouvent démunis, en quelque sorte.
Qui se retrouvent démunis au sens psychique, mais aussi au sens somatique, avec des troubles de l'érection qui commencent à devenir très étonnants, parce qu'on les voit apparaître chez une catégorie d'hommes chez qui ça n'existait pas avant, des jeunes, des jeunes dans la première maturité, qui ont des problèmes d'érection, alors que ça se voyait pas du tout à l'époque où les rôles étaient figés. Et s'il y a une chose qui a changé, c'est bien ces rôles où être un homme à une certaine époque, c'était remplir son rôle d'homme. Point. J'ai une voiture, je gagne ma vie, j'entretiens une famille. Je suis donc un homme, par conséquent. Oui. Et tous ces rôles-là, ils se sont désexualisés. C'est-à-dire conduire une voiture, c'est ni mâle, ni féminin actuellement. Et s'occuper des enfants, maintenant, c'est plus seulement féminin.
C'est même valorisé.
Actuellement. Les hommes qui s'occupent de leurs enfants sont soutenus actuellement, alors qu'à l'époque, un regard un peu suspicieux à leur égard. Donc il y a un changement et pour moi la clinique peut accompagner ce changement. Il y a des hommes qui le vivent passivement, ce changement, et des hommes qui veulent être activement partie prenante à ce changement.
Donc c'est une redéfinition des pôles. Oui, Raphaël Liogier.
Oui, j'aurais voulu juste réagir à ça parce que je trouve ça très très intéressant. C'est que justement, il me semble que une grande partie de la construction, sinon l'essentiel de la masculinité ou de la virilité, est lié à l'angoisse multimillénaire des hommes, qui est l'angoisse d'impuissance. Et l'impuissance, c'est quand même étonnant que la langue parle même directement, comme ça, que ce soit en anglais, en français ou dans d'autres langues, quand on prononce le mot impuissance, qui pourrait être relatif au pouvoir en général, économique, politique, social. Non, c'est d'emblée ce sentiment d'angoisse quand on dit je suis impuissant face à un corps de femme, encore une fois, j'y reviens, le rapport au corps des femmes. Or, un des risques que fait courir MeToo, si c'est mal géré, mal compris, c'est de mettre les hommes à nu face à ce sentiment multimillénaire d'impuissance. Et être mis à nu face à ce sentiment d'impuissance, c'est être privé, en quelque sorte, de toute cette culture qui les avait protégés jusque-là, qui leur avait donné cette force. Et pour revenir sur votre question, est-ce que les choses ont changé chez les jeunes, etc., je crois qu'aujourd'hui, il y a un conflit entre deux types d'érotisme, justement. Un type d'érotisme qui réagit à la mise à nu de ce sentiment d'impuissance, dont MeToo participe, et c'est le développement faramineux aujourd'hui de la pornographie chez les jeunes, sur Internet et ailleurs. Et la pornographie, qu'est-ce que c'est? La pornographie, c'est la caricature de ce que la virilité a de pire, et Weinstein, au paradigme Weinstein, c'est-à-dire la jouissance de la soumission de la femme, des femmes, avec toutes les procédures, tous les rituels pornographiques. C'est le rituel de voir une femme comme un objet de jouissance passif et de jouir parce qu'il est passif, c'est-à-dire même le fait d'éjaculer à plusieurs sur une femme, de la pénétrer ici, cela, de la sodomiser, de prendre ce corps pour en faire un objet passif et jouir de ça jusqu'à l'extrême.
Oui, vous parlez d'une vision capitalistique du corps des femmes.
Exactement. Exactement, puisque c'est l'idée de lui faire perdre de la valeur à une femme. D'ailleurs, on dit dès l'origine qu'on perd sa vertu pour une femme, ce qui est équivalent à la virginité au pucelage, alors qu'un homme, il gagne en vertu dans le comme s'il gagnait de la valeur au sens capitalistique du terme.
Mais à vous entendre, on a l'impression que c'est tout à fait généralisé, que ce sont tous les hommes qui sont dans cette situation.
C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la question n'est pas que ce soit tous les hommes. La question, c'est qu'il y a un imaginaire général, une sorte de contrainte sociale depuis des millénaires, qui s'impose aussi aux hommes pour définir leur virilité. Si vous prenez ne serait-ce que tous les rituels relatifs à l'initiation masculine sont des rituels de prise de pouvoir, de prise de puissance, voire parfois de viol sur les femmes organisées. Qu'en sens inverse, les rituels féminins sont des rituels de soumission, de mise à sa place. Et donc ça, c'est toujours existant, mais on est en train d'en sortir. Et cette difficulté que les hommes ont à en sortir peut créer des réactions, cette réaction d'une sorte de pornographie. Moi, c'est ce que j'appelle la sexualité, d'une sorte de sexualité de la vengeance, mais d'une vengeance sans cause, donc désespérée, désespérante. Mais face à ça, on a un nouvel érotisme qui se manifeste en reconnaissant l'autonomie de la jouissance féminine, par exemple avec le développement des sex toys et avec une des développements des sex toys avec une esthétique qui est plus l'esthétique de la boutique même pornographique en vitre teintée noire avec des hommes qui viennent qui regardent des magazines pornographiques achètent des vidéos, non, c'est mis même en scène dans le package comme si c'était du parfum, comme si c'était quelque chose de, et ça c'est la réalisation, encore une fois, rendre réel, qu'il y a une autonomie de la jouissance féminine, c'est-à-dire que les femmes, elles peuvent vouloir jouir de leur corps immédiatement, sans rien perdre de leur valeur, dans le rapport même au flirt. Et ça, les femmes l'ont pas encore non plus complètement intériorisé.
Oui. Alexis Burger, Raphaël Liogier parlait à l'instant de ces rituels qui traditionnellement inscrivent l'homme dans un rapport de domination. Est-ce que ce rapport de domination, cette angoisse de castration aussi, c'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, n'est pas dans la structure même de l'identité psychique des hommes?
Oui, il y a quelque chose. Pour moi, le rituel de passage qu'on observe souvent dans les sociétés dites primitives ou qu'on a aussi eu beaucoup ici, c'est renforcer la conscience des hommes qui sont hommes. Parce que finalement, l'homme grandit dans un milieu féminin comme la femme, il grandit avec sa mère et la fille grandit, continue à grandir avec sa mère. À un moment donné, l'homme s'éloigne de sa mère et entre dans un autre monde qui est le monde des hommes. Et très souvent, les rituels de passage sont joués comme une sorte d'arrachement à la mère et de confiscation de l'enfant qui vient tout à coup dans le monde des hommes. Et pour moi, ce rituel traduit justement une fragilité dans l'identité des hommes. Le fait que les hommes doivent se séparer du féminin pour être vraiment, je suis pas une nana, moi, ça dénote en fait d'une certaine fragilité dans l'identité, alors que la femme n'a pas cette fragilité dans l'identité. Et dans toute cette évolution, féminisme, etc., mise en question des genres, les femmes sont rarement en train de dire c'est quoi être une femme. Les femmes, généralement, sont en train de dire, attendez, c'est pas correct qu'on puisse pas faire ce que font les hommes, par exemple, qu'on puisse pas travailler ou qu'on puisse pas conduire, comme en Arabie Saoudite. Ils sont pas en train de dire, on se demande ce que c'est qu'être une femme. Tandis que les hommes, très rapidement, sont à ce point à se dire, attends, on est quoi, nous, les hommes? Une fois qu'on nous prend le travail, la voiture, tous ces symboles masculins, on ne sait plus très bien ce qu'on est. Et alors là, on rejoint votre question, c'est qu'il y a quelque chose de compliqué dans le psychisme masculin à ce niveau-là. Et on ne va pas, à mon avis, s'en sortir si on ne passe pas par une remise en question consciente. Et c'est aussi mon dada, c'est pour ça que je dis ça. C'est ce que j'aime faire, c'est constater à quel point le fait que des hommes se retrouvent entre hommes pour mettre à plat les questions les plus chargées avant de se retourner vers les femmes, ça me semble extrêmement important. Par exemple, on parlait de pornographie, c'est quand même très important, parce qu'en même temps, on a une évolution qui, à mon sens, est positive de la masculinité. En même temps, on a cette énorme pornographie qui est là dans l'ombre, mais il suffit d'un clic pour qu'on y arrive, et on a une image complètement invraisemblable de toutes les représentations possibles de la masculinité et de la féminité. Il y a tout, il y a toutes les niches, il y a tout ce qu'on veut. Et les hommes vont pas traiter ce sujet avec les femmes. Il y a beaucoup trop de gêne pour vraiment élaborer leurs propres difficultés avec les femmes. Et je le vois très clairement dans les groupes mixtes. On va beaucoup moins loin dans les groupes mixtes sur le travail genre et sur la sexualité masculine et féminine que dans des groupes homogènes, que ce soit les groupes de femmes que j'anime pas, mais que certaines collègues animent, ou que ce soit dans les groupes d'hommes que j'anime, où on peut parler de ces questions. Mais qu'est-ce que je trouve dans la pornographie? À quoi ça me sert? Est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça me plombe? C'est quel genre de choses qui m'excite? J'y passe combien de temps, etc., etc. Ça, c'est vraiment important. L'autre point sur lequel le dialogue entre hommes est très, très important, c'est le point de l'agressivité ou de la violence. Parce qu'il y a un flou absolument magistral en ce moment sur les questions d'agressivité et de violence. Qu'est-ce qu'est de l'agressivité qui est acceptable? Qu'est-ce qu'est de la violence qui est inacceptable? Quel est le lien entre l'agressivité et la violence, etc.? Je suis assez freudien à ce niveau-là, et l'agressivité, pour moi, est une force de vie sans laquelle on ne va pas s'en sortir. Et si on dit aux hommes simplement « arrêtez d'être agressif et pénétrant », on ne va jamais s'en sortir. Parce que c'est dans la nature de l'homme, c'est dans ses hormones, d'avoir une forme d'agressivité qui est pénétrante. La femme a aussi une agressivité. Elle pose moins de problèmes parce qu'elle n'a pas amené à des guerres mondiales comme l'agressivité masculine. Elle n'a pas amené à la domination, à la violence domestique comme l'agressivité masculine l'a fait. Donc les hommes sont très embarrassés avec leur agressivité. Mmh. Et on peut travailler l'agressivité. Mmh. Et on aboutit à des choses fantastiques. Et on aboutit surtout à quelque chose qui me semble important, c'est que les hommes commencent à se définir par eux-mêmes plutôt que de passer par la femme pour se définir. Mmh.
Mais vous qui animez justement des stages dans le désert et tout ça, en fait, pour développer l'agressivité, vous allez le faire entre hommes.
Exactement.
C'est ça que vous faites.
On le fait entre hommes d'abord, parce que l'agressivité, comme beaucoup de choses, c'est ni masculin ni féminin. Et quand des hommes arrivent à se familiariser avec leur agressivité, y compris leur fantasme agressif, et arrivent à partager tout ce qu'ils ont sur le cœur comme fantasme agressif qui les rendent coupables, mm-hmm. tout à coup ils se disent oh, « bon sang, je suis pas tout seul ».
Et ils préviennent ainsi le risque de sombrer dans la violence,
exactement.
Qui serait l'excès d'agressivité.
Exactement.
Mm-hmm. Raphaël Liogier, vous vouliez réagir ?
Oui, je trouve qu'effectivement, il y a une grande différence entre l'agressivité considérée comme une force de vie, une force débordante, qui est partagée par les hommes et par les femmes, et qui se manifeste pas forcément effectivement de la même manière chez les hommes, chez les femmes, mais il est important de reconnaître que c'est très différent du viol, parce que le viol, c'est justement, il est lié, le viol lui-même, au sentiment de fragilité, et encore une fois, au sentiment d'impuissance, donc à la nécessité de... C'est une orientation de l'agressivité qui est là pour se défendre, de se défendre même de comme si l'identité des hommes était toujours en péril, ça a été dit d'ailleurs, comme si elle était d'emblée en péril, donc les hommes anticipent en étant agressifs. C'est pour ça que je disais que la pornographie, qui est par excellence une sexualité fondée sur la violence, donc sur l'écrasement de l'autre, c'est la sexualité désespérée et désespérante qui s'appuie sur ce sentiment d'impuissance. Mais on parlait aussi du passé, des comportements dits primitifs, etc. Regardez ce qui, au Moyen-Âge, était la définition d'une sorcière. C'est quand même étonnant. Parce que une sorcière au Moyen-Âge, c'est juste une femme qui, à partir d'un certain âge, c'est-à-dire l'âge où elle peut se reproduire, avoir des enfants et même être vue comme un sujet qui est désiré dans la société, si elle n'est ni mariée, c'est-à-dire ni possédée par un homme qui s'est marié avec elle, ni possédée par Dieu entre guillemets, dans un monastère, si c'est pas une nonne, automatiquement elle est considérée comme une sorcière, c'est-à-dire quelqu'un qui a une puissance mystérieuse non contrôlable, c'est ça la sorcière, elle a un pouvoir, des pouvoirs, donc elle est l'envers du sentiment d'impuissance des hommes. Donc, tant que les hommes n'auront pas réglé le problème qu'ils ont avec cette espèce de vision de la femme qu'ils devraient mater, qu'ils devraient écraser pour définir leur virilité, je crois qu'on n'en sortira pas. Donc, je trouve ça très bien, effectivement, qu'on fasse des groupes de parole entre hommes là-dessus. Mais il y a aussi un autre niveau de dialogue qui est le dialogue avec les femmes elles-mêmes, je crois.
Mm-hmm. Oui, la mater à défaut de la comprendre, c'est Alexis Burger, c'est
exactement.
Freud aussi qui nous disait tout simplement que les femmes étaient un continent noir, oui. Un mystère insondable.
Mais je pense
Freud,
que les hommes sont d'autant plus fragiles sur,
Freud,
là, sur la...
Raphaël Liogier.
Oui. Non, juste une petite chose sur Freud. Moi, j'ai un petit problème quand même avec Freud, pas avec Lacan et d'autres psychanalystes, mais je crois que quand même, quand Freud nous explique que les femmes n'ont pas de... Enfin, que le désir des femmes, au sens sexuel du terme, n'est qu'une réaction au désir des hommes, je crois qu'il fait le jeu de cette espèce de construction fantasmagorique millénaire de la masculinité comme étant positive, avec les symboles, elle est solaire alors que les femmes c'est lunaire, les femmes c'est l'eau, c'est maternelle, c'est la mère, etc. Donc elle ne ferait que réagir, elle n'aurait pas de désir qui leur serait propre, autonome et positif. Leur désir existerait parce qu'elle réagirait sans cesse au désir des hommes. Moi je crois pas ça, je crois qu'il faut dépasser cette vision, on pourrait dire de la première psychanalyse freudienne. Mm-hmm.
Alexis Burger.
Je reviens à mon dada, c'est-à-dire le dialogue entre hommes comme préalable à un positionnement un peu novateur des hommes face aux femmes. Si c'est si porteur, les groupes d'hommes, c'est aussi parce que justement, comme je disais avant, les hommes ont généralement été coupées du monde masculin parce que ce fonctionnement de... On parlait du rituel de passage où les garçons entraient dans le monde des hommes. Ça, c'est fini, ça fonctionne plus. Depuis la révolution industrielle, les hommes sont loin. Mmh. Et ils sont pas auprès de leurs fils, ils sont pas auprès de leurs enfants. Alors, ça affecte autant les filles que les garçons, bien entendu, mais les garçons, ça les affecte dans l'identité. Les filles peut-être plus dans la reconnaissance, mais les garçons dans leur identité. Et ils vont être d'autant plus demandeurs, soit en position de soumission, soit en position de dominateur vis-à-vis des femmes, qu'ils n'ont pas d'ancrage dans le monde masculin. Mmh. Et les groupes hommes remplacent, en fait, si on peut dire ça comme ça, ce lien qui a été coupé entre les pères et les fils par la révolution industrielle, qui a éloigné les hommes du milieu familial. Et ça, c'est quelque chose qui change et qu'on voit de plus en plus chez les jeunes hommes, des hommes qui mettent le paquet pour avoir un temps partiel, pour être près de leurs enfants, des choses comme ça.
Donc, que faire aujourd'hui, selon vous, Alexis Burgère? Participer autant que possible à des groupes d'hommes, parler entre hommes de toutes ces questions-là. On peut aussi, bien sûr, vous lire Raphaël Liogier, Descente au cœur du mal, pour essayer d'analyser, de comprendre un petit peu les origines, les longues racines de cette domination masculine. Ou vous lire aussi, Alexis Burgère, Le défi masculin, 20 ans de dialogue avec des hommes. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Vous souhaite de passer une excellente journée.
Merci Raphaël Liogier aussi.
Et merci à vous aussi, Anne-Laure Ganac. Excellente journée.